La majorité silencieuse, pour combien de temps? Dans la préface qu'il écrit en 1988 à V pour Vendetta, Alan Moore précise bien que son livre a quelque chose à voir avec la politique menée par Margaret Thatcher, qui entame alors son troisième mandat. C'est un texte très dur, désabusé face à la politique liberticide et inégalitaire menée par le gouvernement anglais. Je relis hier ce chef-d'œuvre du roman graphique parce que je peux pas m'empêcher de voir dans l'attitude, pour la moins distante, autoritaire, parfois méprisante du gouvernement, un petit air de cette dame de fer. Et à mesure que je tourne les pages de V pour Vendetta, je tombe sur cette leçon qui est faite à la protégée de V. Quand il lui dit « Il ne faut jamais se fier aux majorités silencieuses, parce que le silence est une chose fragile. Il s'efface au premier cri. Le bruit est proportionnel au silence qui l'a précédé. » Plus le calme était absolu, plus le coup de tonnerre choquera. Nos maîtres n'ont pas entendu la voix du peuple depuis des générations, et elle est bien plus puissante qu'ils ne veulent s'en rappeler.
Boomerang, boomerang. Augustin Trapenard.
Bonjour à tous, bienvenue dans Boomerang. Que dit mon invité d'aujourd'hui du bruit des majorités silencieuses? Il est l'un de nos comédiens les plus populaires. Il arpente toute la France pour présenter son cinquième seul en scène 50-50. À coup sûr, vous en entendrez parler. Bonjour Franck Dubosc.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être là. Qu'est-ce que vous entendez, vous, en ce moment? Quel bruit est-ce que vous entendez?
J'entends un bruit que j'entends depuis un bon moment parce que moi, j'ai des gens autour de moi. J'ai une famille qui vient d'un milieu démuni, très, très, très... Enfin, qui est démuni, tout simplement. Qui vient peut-être pas, d'ailleurs, d'un fameux... À l'époque, c'est différent. J'ai une famille, j'ai une sœur, j'ai une maman qui crie déjà depuis longtemps, qui me crie dans l'oreille déjà depuis longtemps et qui m'explique, parfois, en ayant l'impression que je ne peux pas comprendre. Donc, j'entends le même discours aujourd'hui, mais là, multiplié par un nombre de Français incroyable. Donc, j'entends des gens qui souffrent, ça c'est facile à dire, on le sait. Et je commence à entendre de la haine.
Qu'est-ce qu'ils représentent en réalité? Qu'est-ce qu'ils sont, ces gilets jaunes, pour vous qui avez pris position, effectivement, en leur faveur?
Oui, alors j'ai pris position pour les gens qui souffrent. J'ai dit, alors, les gilets jaunes en sont une partie, bien sûr, mais il y a aussi les gens qui souffrent, qui ne sont pas descendus dans la rue, par peur, par manque de temps, j'en sais rien. Et j'ai pris position. En fait, j'ai dit, on vous comprend, on peut essayer de trouver des solutions, c'est dur, moi je ne suis pas un homme politique, je ne suis pas le gouvernement, je ne suis qu'un artiste. Maintenant, les gens ont confiance aux artistes. Coluche a ouvert la brèche et leur a dit, on va faire quelque chose. C'est difficile, hein, faut avoir des sacrés bras pour porter ça. Alors maintenant, dire aux gens, vous savez, c'est comme quand quelqu'un est malade en face de vous, vous demande une solution pour l'aider. Et vous êtes en face, et quand si vous lui dites quelque chose, si vous lui répondez que vous n'avez pas de solution tout de suite, la personne dit, alors, tu ne comprends pas. Si on peut comprendre, même quand on n'est pas dans la situation, moi je suis un vrai privilégié.
Vous n'avez pour autant jamais oublié d'où vous venez?
Non, non, non. Mais je vais vous dire, j'ai jamais oublié d'où je venais. Et puis je pense, j'aime à croire que si je venais d'un milieu plus favorisé, je comprendrais quand même aussi.
À quoi elle ressemblait, votre famille? Qui étaient vos parents?
Bah, mon père, il était déclarant en douane, c'est-à-dire travaillé sur le port à Rouen, jusqu'à l'âge de 52 ans. Je crois qu'il a été au chômage après, pendant le tout, jusqu'à sa retraite. C'est ce qui était horrible pour lui, d'ailleurs, d'avoir été au chômage avant sa retraite. Donc, j'ai vu un homme diminuer. J'ai vu un homme, il a été, à l'époque, à ce qu'on appelait au RMI. Alors il se demandait pourquoi, lui qui avait commencé à travailler à 14 ans. Donc j'ai vu quelqu'un qui pleure, quelqu'un qui se lève, qui a un petit cahier pour écrire tout ce qu'il fait dans la journée, tout qui il voit, quelqu'un qui entend les autres dire « Regarde, le feignant de Dubosc ». C'est terrible ça, parce que on pense à la situation de la personne chômeur ou qui n'a pas peu d'argent, mais c'est aussi le regard des autres qui est difficile. Et puis après, ma maman était donc employée de mairie. Et voilà, donc des gens simples, des Français moyens. Et donc voilà, où on se... En fait, je n'ai jamais senti qu'on se serrait la ceinture parce qu'ils se la serraient eux pour que nous, on puisse l'ouvrir la ceinture et être à l'aise, ma sœur et moi.
Ces origines populaires, vous n'avez pas toujours été très à l'aise avec...
Non, j'ai été... Si. Oui, j'ai eu... Alors, le mot est fort. J'ai eu honte. J'ai eu
mais
honte.
Le mot n'est pas fort.
J'ai eu honte de parce que je voyais, parce que je regardais la télévision. Alors je voyais des gens avec des paillettes, je voyais des chanteurs, je voyais des acteurs, je voyais tous les films. C'était des films dans des beaux immeubles à Paris. Moi, je me souviens, on avait des amis. Les riches, c'était des amis de Sarcelles, et c'était nos amis riches. Et ils allaient au sport d'hiver une fois tous les deux ans. Ils allaient au sport d'hiver, mais nous on n'allait pas au sport d'hiver. Ils faisaient du cheval. Il y avait tout ça. Et moi, j'habitais la rive gauche de Rouen, à Grand-Quevilly, et rien que la rive droite me satisfaisait. Les beaux immeubles. D'aller rive droite, ça me rendait heureux.
C'est un visage de vous que les auditeurs connaissent assez peu et qui me semble assez important d'interroger, particulièrement aujourd'hui. Quand est-ce que vous vous êtes réconcilié en réalité avec ce milieu?
Est-ce que je me suis réconcilié? Quand est-ce que je n'ai plus honte? Assez vite, en fait. Assez vite, trop tard, de toute façon. Parce que, déjà, le fait d'avoir pensé ça me rend honteux face à moi-même. J'ai honte de moi, maintenant. Je pense que je m'en suis rendu compte quand j'ai commencé à gagner beaucoup d'argent. Enfin, beaucoup d'argent, pour moi, c'était pas tant que ça non plus. C'était moins qu'aujourd'hui, pour le coup. Quand j'ai commencé, je vais vous dire, c'est mon père qui me faisait ma feuille d'impôt. Et puis un jour, je me suis dit, pourtant c'était pas énorme à l'époque, mais je me suis dit, je ne peux plus lui donner ma feuille d'impôt parce que c'est plus que lui. Je ne veux pas que mon père ajoute des chiffres qui sont plus importants que les siens. Donc à partir de là, j'ai arrêté et je me suis dit, Franck... tu te rends compte que maintenant tu gagnes plus d'argent que ton père. Tu as fait dans ta vie plus de choses qu'il n'aura l'occasion de faire déjà. Et j'avais 18 ans peut-être, 20 ans, 21 ans peut-être.
Et être privilégié, être favorisé, ça vous donne une responsabilité justement?
Face à eux, oui. Face à eux. Alors face à la France, j'en sais rien. Oui, on aurait envie de dire oui, mais c'est très démago de dire ça. Face à eux, oui. Maintenant, j'ai plus que ma mère et ma sœur, oui. Bien évidemment, j'avais encore ma mère au téléphone avant-hier qui me parlait de soucis financiers. Je lui dis, toi, tu as de la chance. Je suis là, maman. Mais le fait que je sois là n'est pas un réconfort aussi important pour elle parce qu'elle veut s'en sortir seule.
N'empêche, c'est quand même assez intéressant parce que cette part d'engagement qui est liée aussi à votre histoire personnelle, elle est absente de votre spectacle. Le politique, oui. Le social, quel sujet est-ce que c'est pour l'humoriste que vous êtes?
Alors, j'ai du mal à m'autoriser sur scène. Alors, de temps en temps, je lance une petite phrase, une petite chose, mais j'ai du mal à m'autoriser.
Toujours outrancière, évidemment.
Oui, toujours. Mais j'ai du mal à donner mon avis, parce que par peur de me tromper. Et dans la salle, les salles sont grandes, il y a beaucoup de gens, et chacun n'a pas le même avis.
Oui.
Parce que, par chance, j'ai un public très large, j'ai des gens qui sont aisés, j'ai des gens qui ne le sont pas, en majorité, j'ai plutôt des gens qui ne sont pas aisés. Mais les gens n'ont pas tous le même avis, et je ne voudrais pas leur donner le mien et qu'ils pensent que j'ai raison.
Alors du coup, ce que vous avez fait, Franck Dubox, c'est que vous avez construit ce personnage de quinca, dragueur, un peu misogyne, un peu raciste, oui. Qui fait pas dans la dentelle, et qui semble... assez loin, en réalité,
très
de
loin.
Celui que vous êtes.
Qui est très, très, oui, bien sûr. Il est très, très loin. Mais en prenant un personnage qui est loin de moi, ça me permet de le décrire plus facilement. On se décrit mal soi-même. Moi, si vous me demandez de me décrire moi, de jouer moi, je vais avoir un mal fou à me jouer moi. Je sais pas, je connais pas mes défauts, je les connais, mais je connais pas mes qualités. Et en revanche, si je dois faire un personnage que je ne connais pas, mais que j'imagine, que je vois, c'est plus facile, c'est beaucoup plus facile.
Vous est-il arrivé de penser qu'il y avait un malentendu sur,
oui,
Franck Dubosc?
Oui, il n'est pas arrivé de le penser, je l'ai vu, le malentendu. Alors, je me suis fabriqué un emploi. Oui, ça a dépassé. Mais je me souviens, mais même sur le côté dragueur, je me souviens dans certaines émissions, j'arrivais, on me disait, tu veux que je te mette une belle fille à côté de toi pour la draguer? Je disais, mais non, vous avez rien compris. Et même au début, quand j'ai commencé avec mes producteurs de scène, on se disait, les gens vont interviewer Franck Dubosc ou le personnage?
Mais comment il est né, ce personnage d'un fidèle, arrogant, sûr de lui, vantard, antipathique, vulgaire?
Il est né de mon observation de plein de choses. Peut-être alors de certains de mes travers que j'avais envie d'écraser ou j'avais peut-être envie de me donner une petite gifle à moi-même. Donc je les ai sortis, c'est comme une thérapie. Et puis il est venu, sur la base de l'écriture, je vais vous dire, il est venu, on faisait des stand-up. Désolé pour tous ceux qui amènent le stand-up aujourd'hui, mais il y a très longtemps, on était dans des bars avec des copains, avec Guillaume Canet, avec Arnaud Lemort, Philippe Lefebvre, des copains qui continuent maintenant à travailler. Et puis on écrivait, et avec Guillaume, on avait toute la bande, il avait un personnage, il avait 20 ans, et puis un jeune amoureux, un jeune dragueur amoureux. Et puis quand Guillaume a arrêté et s'est dirigé plus vers le cinéma, Moi, j'ai repris certains des textes et j'ai repris son personnage, j'avais 10 ans de plus. Et le jeune homme amoureux devenait sacrément ringard avec 10 ans de plus. Et voilà, puis c'est parti comme ça. Puis j'ai trouvé que ça faisait bien rire de me moquer de moi. Puis j'avais pas un physique d'humoriste. J'étais le jeune beau pour le cinéma, mais pas si beau que ça, sans charme. Donc je me suis dit, bon, bah, il faut que je trouve un truc pour me moquer de moi, et voilà, je suis parti là-dessus, en fait.
Vous savez qu'il y en a une qui est pas belle, enfin, qui est belle, mais qui a pas beaucoup de charme dans cette émission. C'est évidemment la culture et son actualité qui lâche les chiens sans crier gare. Que se passe-t-il donc aujourd'hui, lundi 3 décembre?
Tes problèmes de boulot. Tes problèmes avec ta femme, tes problèmes de fric, tes problèmes en général et en particulier, moi, ta mère, je m'en fous comme de l'an 40. Tu m'entends, je m'en fous. Mais alors, je m'en fous. Je peux pas te dire à quel point je m'en fous.
Cette fois-ci, on s'en fout pas. La comédienne Maria Pacôme, 95 ans, s'est éteinte samedi. Elle était l'une des grandes figures du théâtre de boulevard à la française, incarnant souvent des bourgeoises excentriques. Et la comédienne avait joué du Sacha Guitry, du Claude Magnier, du Jean Poiret. Elle avait aussi pris la plume pour composer ses propres pièces, notamment L'éloge de la paresse en 2002. Au cinéma, en 1992, Maria Pacôme brillait en mère je m'en foutiste face à Vincent Lamont dans La crise de Colin Serrault. Just another microcosm. Crooner de pointe, près de 6 mois après la sortie de leur 6e album, les rockers chic d'Arctic Monkeys viennent de dévoiler Anyways, un titre inédit issu des bootlegs de l'enregistrement de leur Tranquility Base Hotel and Casino. Ambiance scotch, cigare et gomina sur ce slow viril où on attend Alex Turner se la jouer résolument crooner. Cheers. Tendre est la nuit du cinéma européen dès ce soir et jusqu'à vendredi. La première édition de cet événement cinéphile propose de découvrir une vingtaine de films européens projetés gratuitement dans près de 34 villes d'Europe. À Paris ce soir, le Balzac joue ainsi Heureux comme Lazaro d'Ali Chirorvaker, tandis que Cold War sera présenté au Ciné Princesa à Madrid et que Livre d'images de Godard sera au cinéma idéal de Lisbonne, Toloben.
Carlos in concert, the hologram tour.
Et la Callas is back samedi soir lors d'un concert événement. La diva grecque a enchanté le public de l'amphithéâtre de Lyon après avoir fait son grand retour sur scène à Paris la semaine. Impossible, me direz-vous, mais la Callas est morte le 16 septembre 1977. Vous avez raison. Mais c'était sans compter sur la technologie. C'est sous forme d'un hologramme que la cantatrice a interprété les airs mythiques de la Habanera de Bizet ou Casta Diva de Bellini, flippant ou jouissif, mais les deux, mon capitaine. Franck Dubosc, invité de Boomerang ce matin. Franck Dubosc, vous voyez réagir à la disparition de Maria Pacôme.
Oui, ça fait partie de ces actrices. Moi, ça me touche toujours parce que c'est une actrice populaire, rigolote. Et quand on écoute justement ce monologue de la crise qu'elle a, il est tellement bourré de tendresse et de on sent l'actrice tout court. Oui. Dans ce monologue. Non, c'est une grande actrice, mais qui, je pense, est restée. Alors, comment elle l'a vécu, je la connais, j'ai jamais rencontrée. Hein, qui est restée une actrice, j'allais dire populaire, c'est pas un défaut, mais rigolote, uniquement rigolote. Elle n'a pas eu. On ne l'a pas montée. Elle n'a pas eu la carte, comme on dit aujourd'hui, vous savez, cette actrice. Alors qu'on l'aime tous, hein, on a tous.
Quand est-ce que vous avez su, vous, que vous vouliez faire ce métier? Vous vous souvenez?
J'ai su ça. Assez tôt, en fait. Je me souviens, je passais mon bac et puis un copain nous avait dit, je me suis inscrit au conservatoire de Rouen, il y a plein de nanas, c'est super sympa, venez. Alors là, pour l'instant, je voulais pas en faire mon métier, je voulais juste en faire un petit passage.
Et pourquoi? Parce que vous aimiez faire rire?
Non, je faisais pas rire encore à l'époque. Enfin, je pas vraiment, quoi. J'ai essayé très vite, mais je faisais toujours pas rire parce que faire rire n'est pas venu avec l'envie. Hein. C'est l'envie de faire rire est venue avant d'y arriver.
D'accord.
Mais c'est et puis je suis rentré au conservatoire à Rouen. Donc quand j'ai passé le concours, rien que le fait de passer le concours, d'apprendre des textes, tout à coup j'ai été obligé. On m'a offert. Alors j'ai eu un Noël où on m'a offert tout Molière. Je vais vous dire que dans les cadeaux que j'avais l'habitude d'avoir, c'était pas Molière. Hein. C'était j'avais des vélos, des choses. Et là, j'ai eu tout Molière. Et dans une belle édition, avec des pages fines de papier de cigarette et tout. Et à l'époque, je me suis dit, merde, quel cadeau à la con. Et j'ai commencé à l'ouvrir, j'ai commencé à lire, et là, j'ai adoré. Et puis, je me suis pas dit que j'allais en faire un métier, mais je me suis dit que ça me plaisait bien d'essayer de dire des textes comme ça.
Et il y a eu l'envie de se faire remarquer aussi.
Ah oui, la première envie, c'était de se faire remarquer, oui. Et l'envie d'être acteur, il y a eu deux choses. Il y a eu l'envie d'être connu. L'envie de se faire remarquer, l'envie de gagner de l'argent. Oui. Pour moi, un acteur, c'est quelqu'un qui avait une belle voiture, qui allait au sport d'hiver et puis et qui avait un bel appartement ou une maison. Et donc, il y avait cette envie-là qui n'était pas une envie d'être acteur, qui était une envie de plein d'autres choses. J'aurais pu être gangster ou autre pour avoir tout ça. Et mais j'avais pas le courage. Et et puis tout à coup, l'envie d'être acteur, elle est venue après. Elle est venue, je pense, beaucoup plus tard. Elle est venue beaucoup plus tard quand j'ai commencé à faire rire et que tout à coup on m'a dit « Ah, j'aime ce que tu fais ». Et là j'ai dit « c'est ça que je veux ». Je veux pas être connu. Je veux qu'on aime ce que je fais. Alors ça va passer par un côté pas connu.
Ce qui est intéressant, c'est bien qu'on ait parlé de Maria Pacôme. C'est que vous en êtes venu à incarner, notamment grâce au film, je pense à Camping, par exemple, un certain visage du cinéma populaire. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous être un acteur populaire?
C'est toutes mes idoles, moi. C'est Bourvil, c'est Fernandel, c'est même Ventura.
C'était à ça que vous aspiriez?
Oui, c'était ça. Quand j'ai commencé à vouloir être acteur, le moment où là, oui, c'était eux que je voulais être. C'est parce qu'il y a que eux que je connaissais. Et moi, c'était ceux que je voyais. C'est les acteurs que je voyais le dimanche soir au cinéma du dimanche soir, ou le mardi soir à l'époque. Mais c'était ces acteurs-là. Moi, je m'asseyais dans un fauteuil avec mon père pour regarder le film. Le film commençait. Je disais, c'est qui la vedette? Et alors, il me nommait l'acteur principal, et à partir de là, je ne suivais que lui. Alors, il y a eu John Wayne aussi, et c'était mes vedettes. Pour moi, ils n'existaient pas. Ils n'existaient pas vraiment. Et puis, un jour, je les ai vus interviewer. Je me souviens d'une interview de Romy Schneider, de Philippe Noiret, de tout ça. Je me suis dit, donc, ils existent, ces gens-là. Ils ont une vie. Certains ont même des enfants. Donc son papa, quelle chance ont les enfants, vous vous rendez compte? Ça participe à la honte aussi dont on parlait du petit garçon de pas.
Quel regard est-ce que vous portez aujourd'hui sur le jeune homme que vous étiez en fait à l'époque?
J'ai beaucoup de nostalgie. Moi, les souvenirs d'enfance sont des choses que j'aime beaucoup. J'adore pas le petit jeune homme que j'étais. D'ailleurs, dans mon spectacle,
oui, le spectacle se termine par une lettre que
vous écrivez à l'adolescent,
à celui que vous étiez.
Je l'adore pas parce que je pense qu'il était gentil à l'intérieur. Je le pense, mais qu'il avait tellement pas confiance en lui. J'avais tellement pas confiance en moi que j'ai pas dû dégager quelque chose de si sympathique.
Et vous avez confiance en vous aujourd'hui?
Dans certains domaines, oui, pas toujours. Pas tant que ça. Je vais vous dire, c'est les autres qui nous font aussi avoir confiance en nous. C'est l'amour que vous amènent les autres. Donc forcément, moi, tout à coup, j'ai de l'amour par ma femme, par mes enfants. Donc tout à coup, on finit par certains côtés les admettre de soi. Mais j'ai tellement de... Je le disais au début, je connais bien mes défauts, je connais peu mes qualités. Alors peut-être que j'en ai pas. C'est peut-être tout simplement ça, mais je n'ai pas de qualité, mais bon. Et c'est bon. Voilà. Donc j'ai du mal à avoir confiance en moi. Un petit peu plus en vieillissant sur certaines choses, oui.
On va reparler de confiance, d'adolescence aussi, d'émotion, de scène, quand même, juste après The Great Pretender, des Platters, tiens, en 1956, celui qui fait semblant ou pas ce matin. Vous êtes sur France Inter avec Franck Dubosc.
Vous écoutez Boomerang, évidemment. I'm the great pretender, adrift in a world of my own. I play the game, but to my real shame, you've left me to dream all alone. Believe, too real
conceal. Oh, yes, I'm the great pretender. Just laughing and gay like a clown. I seem to be what I'm not. You see, I'm wearing my heart like a crown. Pretending that you're still around. Just laughing and gay like a clown. I seem to be what I'm not. You see, I'm wearing my heart like a crown, pretending that you're still.
Sur France Inter, Augustin Trapenard.
On va pas y aller par quatre chemins quand même. C'est vrai qu'il a quelque chose d'assez irrésistible, hein, quelque part entre Casanova et le gendre idéal, avec ses cheveux poivre et sel, son petit nez en trompette, ses yeux pulmarines, un coup à nous faire tomber au fond de la piscine pour boire la tasse chin-chin. S'il n'avait pas la fâcheuse manie de nous couler avant, à nous couler avant qu'il soit séduit d'une petite pichenette ou d'un mot d'esprit avec sa chemise bleue en jean. Évidemment, il est habillé tout en bleu, parce que ça va avec ses yeux, vous les connaissez, les comédiens Franck Dubosc, invité de Boomerang pour son spectacle 50-50. J'aimerais, Franck, qu'on parle un peu de scène, de planche, de théâtre. La première fois que vous êtes monté sur scène, vous vous souvenez de ce qui s'est passé ?
La première fois vraiment, on va dire celle qui compte, oui, c'était au Conservatoire de Rouen, pour l'audition. J'avais appris plusieurs textes, et puis à un moment donné, j'avais appris le début de L'étranger de Camus. Aujourd'hui, maman est morte, peut-être hier, je ne sais pas, j'ai reçu un télégramme de l'asile, mère décédée, enterrement demain, sentiment distingué, ça ne veut rien dire du tout. J'avais appris ça. Je monte sur scène, alors j'étais un peu genre blouson en cuir, moi je venais de ma zone avec ma mobilette, j'étais fan de Renault, vous voyez tous ces trucs-là. Donc en bas. Et je monte sur scène, et là je commence, et le trac m'envahit, mais je le montre pas, je fais mon branleur. Et en plus je parie comme ça, et je fais « Aujourd'hui maman est morte ». Et là, trou de mémoire. Et là je cherche sans bouger, sans rien. Et là, le jury me dit « Merci, monsieur !» Et je me dis « Merde, j'ai tout foiré !» Et en fait, et après j'ai passé une scène, et ils m'ont rappelé après, j'ai été pris, et ils m'ont dit « Ce silence !» Ceci après aujourd'hui. Et en fait, c'est juste que j'avais un trou de mémoire et que j'étais tellement tétanisé que je n'ai pas bougé. Donc j'ai dû avoir ce mec qui cherche aujourd'hui. C'est tellement puissant cette phrase aujourd'hui, oui. Maman est morte. Mais si j'avais pas eu de trou de mémoire, j'enchaînais tout. C'était le TGV, vous voyez.
Pour autant, la peur, vous l'avez eue. Est-ce que c'est pour ça que le théâtre est aussi devenu le lieu peut-être d'improvisation pour vous?
La scène, en fait, c'était, d'abord, c'était, mais j'avais que ça au début, la scène à faire. Non, je pense que le théâtre, j'ai toujours eu le trac au théâtre. J'ai pas le trac quand je joue mes spectacles sur scène, mais au théâtre, j'ai toujours eu le trac, je l'aurai encore si j'en fais. Peut-être parce que la peur de me tromper, non pas pour le public, mais pour mon partenaire.
Ah.
Ouais. Ouais. Le public, il pardonne.
C'est pour ça que vous faites des seuls en scène, en fait.
Comme ça, je peux me tromper, tout ça. Le public, il pardonne, le public. Il nous aime, normalement. Enfin, quand ils viennent nous voir en spectacle, enfin, c'est ce qu'il faut se dire, en tout cas, dans sa tête. Maintenant, je crois que c'est Lou Jouvet qui dira le trac vient avec le talent. Donc, quand je dis que j'ai pas de trac, j'ai toujours un petit peu peur qu'on me la sorte. La scène, après, c'est venu, l'improvisation est venue plus tard, parce qu'il y a eu la scène, il y a une différence entre jouer, faire du théâtre, faire des sketchs et improviser.
Il y a beaucoup d'improvisation dans vos
spectacles. Oui, j'en ai, mais l'improvisation, elle devient vite, quand on joue, elle devient vite habituelle. Parce qu'on se retrouve souvent dans les mêmes cas de figure. Mais j'adore ces moments d'improvisation. J'adore ça. J'adore parce que parce que je deviens moi aussi spectateur, et puis tout à coup, ils sont assez faciles les moments d'improvisation finalement parce que le public sait que c'est de l'improvisation, donc il est un tout petit peu moins, il est plus indulgent.
Vous aviez des modèles d'humoristes justement, vous ?
Je suis pas un grand fan pas d'humour, j'aime l'humour, mais d'humoriste. J'aimais Pierre Palmade. Je dis j'aimais parce que on le voit moins, hélas, en one man show. J'aime Pierre Palmade. J'aime des mecs comme Jérôme Commandeur, François-Xavier de Maison. Sont pas des modèles, sont des gens qui me font rire.
Non, mais je vous pose la question parce que c'est vrai que
j'aimais Robert Lamoureux.
Oui.
J'adorais ça.
J'ai eu l'impression que dès votre plus jeune âge, c'était effectivement surtout le cinéma qui vous faisait rêver. Il paraît qu'à 12-13 ans, vous tourniez de courts films avec votre caméra Super 8.
Ouais.
De quoi ils parlaient, ces films?
Ah, ben, j'en ai plusieurs. J'avais fait les visites des studios de Hollywood. J'avais fait je faisais beaucoup de films d'action. Quelque part. J'en avais fait un autre qui s'appelait Rock'n'Rock, un film
Rock'n'Rock
sur un rocker qui tombe amoureux d'une jeune femme de bonne famille. C'est un cliché absolu.
Et, ça fait des très grandes pièces.
Oui, moi, je faisais tous ces. Mais d'ailleurs, pour rebondir là-dessus, moi, ma passion, c'était de réaliser. C'était pas de jouer. Je ne joue dans aucun de mes films. Et j'étais trop cher à l'époque, certainement. Et en fait, c'est ma première passion, réaliser. Puis quand je suis venu à réaliser, je me disais toujours, j'emmerde mes camarades à les faire tourner. Ils n'avaient aucune velléité d'être acteurs, ils ne voulaient pas. Et je les emmerdais. Allez, viens, venez, on va tourner un film.
Mais disons, vous avez mis le temps quand même, Franck Dubosc, parce que votre premier film, Tout le monde debout, pour lequel on avait d'ailleurs reçu Alexandra Lamy à ce micro, vous l'avez réalisé il y a très peu de temps.
Oui, j'ai mis du temps, le temps d'avoir confiance en moi, le temps de me dire, finalement, je ne voulais pas être un chef. J'avais l'impression qu'être réalisateur, c'était un chef, donc se faire détester. Et puis, c'était le temps de me rendre compte qu'un réalisateur, c'est pas quelqu'un qui se fait détester, c'est quelqu'un qui a une idée. Et puis, c'est un métier d'être réalisateur. Il m'a fallu observer des réalisateurs, voir ce qu'il fallait faire, ce qu'il fallait pas faire. Et il y a encore plein de choses à apprendre, bien évidemment. J'ai mis peut-être trop longtemps, parce que j'ai adoré ça et je vais continuer.
Elle est devenue quoi, cette caméra Super 8? Vous l'avez encore?
Non, je l'ai plus, la caméra Super 8. Je sais pas ce qu'elle est devenue d'ailleurs. Je sais pas ce qu'elle est devenue. Non, elle a dû. Ah, tiens, c'est vrai.
J'ai de la retrouver, Franck. C'est bien pour les interviews de parler de cette caméra Super 8. Vous voyez, on revient un petit peu aux origines. Vous avez fait un cadeau ce matin à propos de revenir aux origines. Vous avez emmené un livre avec vous. Alors, c'est un livre qui est tout corné. C'est un livre vert avec une. C'est une vieille édition.
C'est la vieille édition. C'est mon édition c'est l'édition de quand j'avais 10-12 ans. Je l'ai retrouvé chez ma mère la semaine dernière, figurez-vous.
Et c'est quoi ?
C'est La gloire de mon père.
C'est La gloire de mon père ?
Oui. Pour ceux qui s'en souviendraient, c'est une édition. Vous savez, c'est les petites. Ces espèces de vert et noir, de petites taches qu'on a sur ces dossiers dans lesquels on met les dessins. Comment ça s'appelle ?
Oui, ces pochettes, effectivement.
Pochettes à dessin.
C'est carton à dessin.
C'est carton à dessin, oui.
Et alors, vous avez choisi un texte à lire, le pourquoi, lequel ?
J'ai cherché. Là où parce que pour moi tout le film est un voyage dans le sud de la France, est un voyage avec le père, ça parle du père, ça parle de l'amour d'un père, c'est la gloire de mon père, et j'ai choisi un moment qui décrit moi j'avais pas voyagé, j'étais jamais allé dans le sud quand j'étais petit, et quand je voyais ça, je visualisais, je voyageais et j'entendais même l'accent, j'entendais les cigales. Alors là, j'aime le lire avec ce papier-là parce que l'odeur du sud de la Provence, c'était l'odeur du papier. Mais oui, c'était cette odeur de papier jauni que j'adore. Hein. Et donc j'ai choisi un moment où Marcel Pagnol décrit ce qu'il voit en tant que petit garçon. Donc je vais essayer de le lire au mieux sans l'accent parce que je serais incapable de le faire bien. Mais j'imagine que ça, avec l'accent, ça... Les cigales arrivent dès la première phrase avec l'accent. Moi, elles viendront un peu plus tard. Pour l'instant, c'est le fromage, puisque je suis camembert. je suis camembert, puisque je suis normand. On y va. Nous sortîmes du village. Alors commença la féerie, et je sentis naître un amour qui devait durer toute ma vie. Un immense paysage en demi-cercle montait devant moi jusqu'au ciel. De noires pinèdes séparées par des vallons, allaient mourir comme des vagues au pied de trois sommets rocheux. Autour de nous, des croupes de collines plus basses accompagnaient notre chemin qui serpentait sur une crête entre deux vallons. Un grand oiseau noir immobile marquait le milieu du ciel et de toutes parts, comme d'une mer de musique, montait la rumeur cuivrée des cigales. Elles étaient pressées de vivre et savaient que la mort viendrait avec le soir. Le paysan nous montra les sommets qui soutenaient le ciel au fond du paysage. À gauche, dans le soleil couchant, un gros piton blanc étincelait au bout d'un énorme cône rougeâtre. « Celui-là, dit-il, ses têtes rouges. À sa droite brillait un pic bleuté un peu plus haut que le premier. Il était fait de trois terrasses concentriques qui s'élargissaient en descendant comme les trois volants de la pèlerine de fourrure de Mademoiselle Guémard. « Celui-là, dit le paysan, c'est le Taoumé. » Puis pendant que nous admirions cette masse, il ajouta « On lui dit aussi le Tubé. »« Qu'est-ce que ça veut dire ?» demanda mon père. « Ça veut dire que ça s'appelle le Tubé ou bien le Taoumé. » « Mais quelle est l'origine de ces mots ?»« L'origine, c'est qu'il y a deux noms. Mais personne ne sait pourquoi. Vous aussi, vous avez deux noms. Et moi aussi. » Je pourrais continuer encore, c'est ce voyage de Marseille. Cette description, c'est marrant parce que l'emploi des mots d'adulte qu'un enfant n'emploierait pas, mais on sent que c'est l'enfant qui parle.
Merci infiniment, Franck Dubosc, d'être venu faire un tour dans cette émission. Je rappelle que 50-50 est en tournée jusqu'au 20 décembre, puis à partir du mois de janvier, sillonnera les Zéniths de France avec un passage du 27 mars au 14 avril 2019 au Palais des Sports de Paris. Merci d'être venu jusqu'ici.
Merci à vous.
Tout de suite, les médias. Sonia De Villers, juste après ça.
Le soir, déplie ses voiles sombres, enveloppe les toits, les trottoirs et les bois, et là dans la pénombre, personne ne nous voit. Fidèle égaré sur les pavés, au fond de nous, l'étincelle invisible à vos yeux, cet éclat vénéneux. Perdons silencieux, au fond de nous, l'étincelle dans le cas orageux, cet éclair dangereux des héros silencieux.
L'étincelle, Étienne Dao sur France Inter, et c'est l'heure de Sonia De Villers, les médias.
Oui,
l'instant
Augustin,
M.
On est reparti pour une nouvelle semaine. Salut à
demain.
Salut
Sonia.